à Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 16 octobre 2019. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. 6 morts dans les manifestations en Guinée depuis lundi. Les initiateurs de la contestation ont comparu devant la justice aujourd'hui. Le président nigérian Muhammadu Buhari demande à la police de sévir contre les écoles coraniques abusives. Des milices fuyant une contre-offensive de l'armée congolaise ont incendié des villages dans le sud Kivu. La Turquie rejette le cessez-le-feu en Syrie. Donald Trump a dépêché son vice-président et le secrétaire d'État à Ankara. La France a confirmé la détention depuis juin en Iran de 2 chercheurs, dont Roland Marchal. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En Guinée, les initiateurs des manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé ont comparu devant la justice au troisième jour du quadrillage de Conakry par les forces de l'ordre. Yacouba Ouédraogo nous en dit plus.
Le procès des 8 hommes s'est ouvert devant le tribunal de première instance de Dixin. Ils sont des responsables du Front National pour la Défense de la Constitution, une coalition de partis d'opposition, de syndicats et d'organisations de la société civile. Il leur est reproché des propos de nature à troubler l'ordre public en appelant à manifester selon l'accusation. D'après leur avocat Salifou Beavodji, le parquet n'a pas pu apporter la preuve que ses clients ont commis des actes de nature à troubler l'ordre public car ayant appelé à des manifestations pacifiques. Il a ajouté qu'ils encourent des peines allant de 3 à 5 ans de prison. Les 8 hommes ont été interpellés samedi au domicile du coordinateur du FNDC, l'ancien ministre Abdourahmane Sano. Ils ont affirmé avoir été confinés dans des cellules exiguës et mis à nu au cours de leur garde à vue. Le chef de l'opposition, Selou Dalein Diallo, a exigé l'abandon des poursuites. Des heurts ont agité Conakry et plusieurs villes depuis lundi, faisant au moins 6 morts parmi les manifestants selon des proches et des médecins. Le gouvernement lui parle de 2 morts. Le FNDC manifeste contre un projet de révision de la Constitution évoqué par le pouvoir qui permettrait à Alpha Condé de se présenter en 2020 pour un troisième mandat alors que la Constitution actuelle en limite le nombre à 2.
Le président nigérian demande à la police de sévir contre les écoles coraniques abusives. Cette réaction de Muhammadu Buhari intervient après la découverte en début de semaine d'un deuxième établissement dans le nord du Nigeria, dans lequel plus de 300 jeunes garçons étaient enchaînés, torturés et victimes d'abus sexuels. Les précisions avec Jacques Aristide.
D'après un porte-parole de la présidence nigériane, le chef de l'État a ordonné aux forces de l'ordre de démanteler tous ces centres et de remettre tous les détenus à leurs parents. Le gouvernement ne peut pas tolérer de telles écoles où des hommes et des femmes sont maltraités au nom de la religion, ajoute le porte-parole. La nouvelle découverte a été faite dans l'école coranique de Dora après que des étudiants se sont échappés dimanche de leur foyer et ont dénoncé dans la rue leurs conditions de vie. Dora est la ville natale du président Buhari. La plupart des détenus ont été retrouvés enchaînés. Selon le chef de la police de la région, certains élèves ont révélé avoir été sodomisés par leurs professeurs. Le propriétaire de l'établissement et ses enseignants ont réussi à s'échapper pendant le raid policier. Début octobre, une descente avait déjà mis au jour les pratiques d'une autre école coranique de l'État voisin de Kaduna où autant d'élèves subissaient les mêmes sévices.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, des milices fuyant une contre-offensive de l'armée ont incendié et pillé des villages dans la province du Sud Kivu. Ce matin, des maisons ont été incendiées dans le village Niamulongwe. Les miliciens ont aussi volé plusieurs vaches, a indiqué Gadi Mukiza, bourgmestre de la commune de Minembwe. C'est le 7e village du territoire de Fizi à être incendié en l'espace de 5 jours, a-t-il précisé. Le dépouillement des voix est en cours au Mozambique au lendemain des élections générales, dans un climat de tension suscité par des irrégularités relevées par la société civile. Le président sortant, Filipe Nyusi, et son parti, le Frelimo, qui dirige le pays depuis 1975, devraient remporter une nouvelle fois la présidentielle et les législatives. La RENAMO devrait toutefois prendre le contrôle de certaines provinces pour la première fois. Les pourparlers de paix entre Khartoum et les rebelles soudanais ont été suspendus à Juba avant même d'avoir débuté. Un des groupes armés accusant l'armée de bombarder ses positions au Kordofan Sud. Ces pourparlers avec des rebelles du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu ont été officiellement lancés dès lundi dans la capitale du Soudan du Sud en présence des chefs d'État d'Éthiopie, d'Égypte, du Rwanda, de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Le premier face-à-face devait avoir lieu ce mercredi. Le candidat vaincu à la présidentielle tunisienne, Nabil Karoui, ne déposera pas de recours contre les résultats du scrutin, a indiqué son parti, ouvrant la voie à la prestation de serment de Kais Saied sous 10 jours. Monsieur Karoui, poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, a remporté 27,3% des voix contre 72,7% pour Monsieur Saied.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump a encore défendu sa décision de retirer les soldats américains dans le nord-est de la Syrie. Il a dépêché son vice-président Mike Pence à Ankara pour tenter d'arrêter l'offensive turque contre la milice kurde des unités de protection du peuple. Eric Manirakiza nous en dit plus.
Si la Turquie va en Syrie, c'est une affaire entre la Turquie et la Syrie. Ce n'est pas notre problème, a déclaré Trump quelques heures avant le départ de son vice-président Mike Pence, qui doit rencontrer le président Recep Tayyip Erdogan en Turquie, avec la volonté affichée d'obtenir un cessez-le-feu immédiat. Les Kurdes sont plus en sécurité aujourd'hui, a affirmé M. Trump. Ils se sont battus avec nous. Nous avons payé beaucoup d'argent pour qu'ils se battent avec nous, a-t-il encore dit. Nous sommes dans une position stratégique très bonne, a-t-il ajouté. C'est brillant d'un point stratégique, a-t-il insisté, soulignant que tous les soldats américains avaient été retirés de la zone. M. Trump a estimé que beaucoup de pays qui détestent le groupe État islamique devaient prendre le relais des États-Unis. La Turquie a lancé la semaine dernière une offensive dans le nord de la Syrie contre la milice kurde des unités de protection du peuple, soutenue par les pays occidentaux, mais qualifiée de terroriste par Ankara. Près d'un millier de Kurdes de Syrie ont fui ces 4 derniers jours vers le Kurdistan irakien voisin face à la progression de l'offensive militaire turque dans le nord syrien, ont indiqué mercredi des responsables.
Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est inquiété ce mercredi du risque de dispersion des djihadistes retenus prisonniers dans le nord-est de la Syrie. Dans une déclaration, les 15 membres du Conseil font aussi part de leur grande préoccupation face à l'éventualité d'une détérioration accrue de la situation humanitaire dans cette région syrienne. Le chercheur français Roland Marshall est détenu en Iran depuis le mois de juin. Les détentions d'étrangers et de binationaux se sont multipliées depuis la sortie des États-Unis en mai 2018 de l'accord sur le nucléaire iranien. Irénée Herman Ungbo nous en dit plus.
C'est une association de chercheurs qui a annoncé ce 16 octobre 2019 l'arrestation en juin du chercheur Roland Marshall. Il avait été arrêté en même temps que sa collègue franco-iranienne Fariba Adelka, spécialiste de l'islam chiite. La journaliste russe Iulia Iuzik, accusée d'avoir collaboré avec les renseignements israéliens, a été arrêtée le 3 octobre 2019 à Téhéran dans sa chambre d'hôtel. Deux Irano-Américains, l'homme d'affaires Siamak Namazi et son père Mohamed Bagher Namazi purge depuis octobre 2016 une peine de 10 ans de prison pour espionnage et collaboration avec le gouvernement américain. L'Irano-Britannique Nazanin Zaghari Ratcliffe est emprisonnée depuis 2016 pour sédition. Elle avait été arrêtée à l'aéroport de Téhéran après avoir rendu visite à sa famille et sa fille de 22 mois. La diplomatie australienne a annoncé le 5 octobre 2019 la libération d'un couple de voyageurs originaires de Perth, Jolie King et Mark Firking, dont l'arrestation pour espionnage avait été confirmée en septembre par Téhéran. Les autorités iraniennes ont aussi confirmé en septembre que Kyle Moore Gilbert, une universitaire de Melbourne, spécialiste du Moyen-Orient, est emprisonnée pour espionnage au profit d'un pays tiers.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays ne ferait rien en ce qui concerne l'enquête en vue d'une procédure de destitution contre le président américain Donald Trump, soupçonné d'avoir pressé Kiev de rechercher des informations préjudiciables à Joe Biden. En tant que président d'Ukraine, je ne vais pas intervenir dans les affaires en cours dans d'autres pays, a déclaré M. Zelensky lors de sa rencontre avec la diaspora ukrainienne en Lettonie. Les discussions se sont prolongées ce mercredi à Bruxelles pour tenter de trouver un accord avec Londres sur le Brexit, mais les perspectives de les voir aboutir restent incertaines à l'approche du sommet européen. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, on parle économie dans la Minute Éco avec Nani Talani.
Des compagnies pétrolières opérant au Nigeria contre-attaquent le gouvernement devant les tribunaux nationaux pour contester sa demande de lui verser 62 milliards de dollars. Les autorités nigérianes exigent cette somme en vertu d'une réglementation leur permettant de revoir les accords de partage des revenus sur les ventes de pétrole si les prix du brut dépassent 20 dollars le baril. Les experts pensent que le Nigeria a peu de chances de parvenir à collecter les montants exigés. La société publique sud-africaine d'électricité Eskom annonce des coupures de courant temporaires afin de protéger l'ensemble du système électrique et éviter un effondrement total. Ces délestages s'expliquent par un nombre important de pannes imprévues. Eskom, qui fournit 95% de l'électricité produite dans le pays, dispose de plusieurs centrales à charbon mal conçues, vieilles et mal entretenues, provoquant régulièrement des coupures. Pour terminer, le prix du pain, deuxième aliment de base du Zimbabwe, a bondi de 60% du jour au lendemain en raison de la flambée des coûts de production. Le pain coûte maintenant 15 dollars zimbabwéens contre 9,45 dollars zimbabwéens mardi.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
L'Algérie a réussi sa fête contre la Colombie en France.
Oui, l'Algérie a battu la Colombie 3-0 en amical pour son premier match sur le sol français depuis 2008. Un but de Bagdad Bouneja et un doublé de Riyad Mahrez ont permis aux hommes de Jamal Belmadi de l'emporter. 10 ans après la dernière rencontre des Fenech en France, plus de 40 000 supporters algériens se sont rendus au stade Pierre Moroy de Lille pour admirer les champions d'Afrique en titre. Soirée compliquée par contre pour le Maroc, battu 3-2 par le Gabon à Tanger. Après la CAN, les Marocains ont enregistré 2 matchs nuls, 1 victoire et 1 défaite dans les matchs amicaux sous l'ère du coach Vahid Halilhodžić. Pas de quoi s'enflammer selon le lion de l'Atlas, Amin Harit.
C'est le début, on a besoin de remettre les choses en marche. Voilà, faut trouver les automatismes. Inch'Allah, j'espère que ça va aller mieux dans le futur. Tout le monde va rentrer dans son club, va bosser dur. On va se retrouver d'ici un mois et demi, Inch'Allah. Et faudra être prêt. De toute façon, on n'a pas le choix. Faut gagner parce que là, c'est des matchs officiels. Donc, il n'y a plus le choix de faire un match nul ou une défaite.
C'était le joueur marocain Amin Harit. Bon début en revanche pour le Gabon du nouveau sélectionneur Patrice Neveu, qui comprend la situation que traverse son collègue d'en face.
Le coach Wahid est arrivé depuis peu de temps. Je pense qu'il est en train de chercher des solutions pour amener les plus. Bon, il prend la succession du collègue Hervé, comme je disais, qui avait beaucoup donné chez vous. Il faudrait pas que ça installe le doute au sein de ses équipes. Mais bon, vous avez des joueurs à fort potentiel dans toutes les lignes.
Patrice Neveu, sélectionneur du Gabon.
Les non-voyants maliens appellent à l'aide pour prendre part à leur CAN.
La CAN des non-voyants appelée Cécifoot aura lieu au Nigeria du 22 novembre au 2 décembre prochain. 11 pays dont le Mali vont y participer. Le hic pour les Maliens, c'est le manque de moyens financiers et le chargé de promotion de la Cécifoot au Mali en appelle à la générosité de ses compatriotes Bako Traoré.
Les difficultés que nous traversons actuellement, c'est le manque de financement pour payer nos frais de participation et nos frais de déplacement. Notre budget s'élève à 15 000 euros en fait. On a eu quelques donations. Il dit qu'il va faire le nécessaire pour pouvoir nous dégager un budget. Donc, on attend sa réponse d'ici demain. Normalement, c'est le 17 qu'on doit verser nos frais de participation, une tranche en fait. Il reste à mobiliser 5 millions de francs CFA.
Bako Traoré, chargé de promotion de la Cécifoot Mali.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, à présent les dossiers du jour. C'est désormais officiel. Guillaume Soro, l'ancien rebelle et ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, est candidat à l'élection présidentielle de 2020. Comment est accueillie la nouvelle par les Ivoiriens? Quelles sont ses chances de remporter le scrutin? Et quel est son poids sur la scène politique? Pour répondre à ces questions, Eki Abadou a joint à Abidjan Félix Kra, membre de la société civile.
C'est une nouvelle importante. Parce que beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs s'attendaient à cela. Parce que depuis plusieurs mois, ses partisans le disaient à travers les sorties dans la presse et sur les réseaux sociaux. M. Soro Guillaume est une personnalité importante en Côte d'Ivoire par rapport à tout le rôle qu'il a joué depuis les années Fessy jusqu'à la rébellion et même était membre de plusieurs gouvernements et premier ministre, président de l'Assemblée nationale. C'est un événement important et c'est un acteur majeur de la vie politique en Côte d'Ivoire. Cela donc mérite l'intérêt que tout le monde peut s'accorder par rapport à cela.
Vous avez dit que c'est une personnalité très importante pour les Ivoiriens et pour la politique ivoirienne. Quelles sont ses chances selon vous?
Sa candidature va susciter, c'est vrai, beaucoup de passions. Il y a des gens qui attendent cela, mais il y a des gens aussi qui, évidemment, à qui ça ne va pas faire plaisir. Dans une démocratie, tous les citoyens ont le droit de se porter candidat, ont le droit de choisir là où ils pensent qu'ils peuvent être présents pour participer à la vie de la nation. Ça, c'est son droit. Maintenant, ce que les citoyens vont décider dans le vote, ça, c'est autre chose.
Il fait donc cavalier seul. Certains imaginaient ou espéraient qu'il allait repartir vers le parti au pouvoir, le RHDP. D'autres ont parlé d'approchement avec le FPI. Est-ce que vous auriez imaginé autre chose?
D'abord, il faut remarquer qu'il bénéficie de beaucoup de soutien. Il dispose de beaucoup d'organisations, au moins 5 organisations de la société civile en sa faveur. Ce sont évidemment des gens de la tranche d'âge de 30 à 45 ans. Mais cela dit, il y a aussi d'autres formations politiques importantes comme le RHDP, comme le PDCI, comme le FPI. Et je parie que si sa candidature venait à être maintenue, confirmée et acceptée, vraiment la bataille sera rude. Pour ma part, je pense que c'est un candidat comme tous les autres. Rien n'est gagné d'avance. Personne n'est optimiste en Côte d'Ivoire. Si on interroge même les gens du pouvoir, peut-être qu'eux, ils disent qu'ils sont optimistes, mais je suis convaincu qu'ils ne sont pas tout à fait rassurés. Parce qu'il y a beaucoup de dangers qui planent, notamment concernant la commission électorale indépendante qui n'est pas consensuelle. Cela peut créer des problèmes, il peut avoir des remous. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de gens craignent. Et qui peut même faire en sorte que l'élection même soit entaché d'irrégularité, n'est pas lieu où ça, c'est une inquiétude gravissime en ce moment dans le pays.
Le syndicaliste Félix Kra était joint à Abidjan.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, nous allons aborder l'agitation politique meurtrière qui se poursuit en Guinée. La rue se mobilise contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Pourquoi la situation continue de se dégrader? Quelle solution à la crise actuelle? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Au Nigeria, les militants ayant quitté les rangs du groupe extrémiste Boko Haram ont du mal à retourner à la vie civile. Ils sont stigmatisés et souffrent de troubles mentaux, devenant souvent des toxicomanes. Un programme de l'hôpital psychiatrique de Maïdougouri les aide dans leur transition vers une vie nouvelle. Voici un reportage de Chika Odoua à Maïdougouri, relaté par Lionel Gaïma.
Ibrahim Dobji tient une petite boutique à Maïdougouri et essaie d'oublier son passé. Ça fait 3 ans qu'il a quitté Boko Haram.
Nous avons été forcés d'aller au front et les soldats nous ont vaincus.
Dobji s'est échappé mais a été intercepté par un soldat. Par la suite, sa communauté l'a rejeté. «
Les gens vous soupçonnent d'être toujours membre de Boko Haram ou un informateur du groupe. Le gouvernement nous a déjà blanchis, mais les gens se méfient de nous. J'ai besoin de leur pardon.
Des centaines de personnes liées à Boko Haram ont pris part à un programme de réhabilitation du gouvernement nigérian, puis sont libérés. Retourner à la vie normale reste un pari difficile pour eux. Certains sont stigmatisés, d'autres ont des troubles mentaux. Ils viennent se faire traiter dans l'unique hôpital psychiatrique dans tout le nord-est du Nigeria. Des séances de thérapie de groupe les aident, mais la toxicomanie constitue un obstacle majeur. Le docteur Pinda, responsable des services cliniques et de la désintoxication.
We know that quite a number of them might be having some personality disorders or.
Ils sont nombreux à avoir des troubles de comportement ou une phobie qui les incite à se droguer pour pouvoir s'exprimer.
And substance use is on the rise.
Le pardon pour ces repentis est une nécessité, d'après Joseph Babatunde Sotomay, consultant en sécurité.
When they really sorry, they are sorry.
Quand ils sont vraiment repentis, ils regrettent. Ils ont besoin d'une surveillance étroite. Les emprisonner n'est pas la solution, car ils peuvent y aller et recommencer à planifier des attaques en prison.
Les milices d'autodéfense qui aident l'armée nigériane dans la lutte contre le terrorisme promettent, pour leur part, qu'elles ne feront aucun mal aux militants de Boko Haram qui se rendent. Mais leur acceptation dans la communauté ne se fera pas du jour au lendemain. Baba Shehu Abdul Ghani, du groupe d'autodéfense.
Ces gens-là ont tué d'autres gens. Ils ont massacré des personnes. Ils ont fait beaucoup de mauvaises choses. De nombreux business se sont effondrés. Beaucoup de gens souffrent au sein de la communauté.
Dans sa petite boutique de Maïdougouri, Ibrahim Dobji essaye de gérer ses remords en tentant d'éviter des ennuis avec la population.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
12 candidats démocrates à la présidence des États-Unis ont pris part à un débat parfois houleux hier soir dans l'Ohio. Ils ont multiplié leurs attaques contre le président républicain Donald Trump, mais ils n'hésitaient pas non plus à se défier sur des questions telles que les soins de santé, l'inégalité des revenus et le retrait des forces américaines de la Syrie. Le point avec Jim Malone, le récit est de Irénée Herman Ongbo.
L'enquête de mise en accusation contre le président Trump pour ses efforts en vue d'obliger l'Ukraine à enquêter sur le démocrate Joe Biden était au centre du débat de mardi. Le favori démocrate était évidemment prêt à répondre à ses adversaires.
Rudy Giuliani, le président et ses voyous ont déjà prouvé qu'ils sont à plat. Ce que nous devons faire maintenant, c'est nous concentrer sur Donald Trump. Il ne veut pas que je sois le candidat. Il me poursuit parce qu'il sait que si j'obtenais la nomination, je le battrais comme un tambour.
Les 12 candidats présents sur le plateau soutiennent l'enquête de mise en accusation, y compris le sénateur du Massachusetts, Mme Elizabeth Warren, qui se trouve actuellement en tête des sondages avec Biden.
La destitution est le seul moyen pour nous de démontrer que cet homme ne sera pas autorisé à enfreindre la loi à maintes reprises sans conséquence.
Les discussions ont également porté sur le retour du sénateur Bernie Sanders à la campagne après sa récente crise cardiaque. Bien imprégné de la question de la mise en accusation, Sanders semble toutefois plus porté sur son intérêt sur le bien-être des Américains.
Je pense que ce qui serait désastreux, c'est de laisser le peuple américain croire que tout ce que nous faisons, c'est d'attaquer Trump en oubliant que 87 millions d'Américains sont sans assurance de santé.
Le sénateur du New Jersey, Cory Booker, craignait lui aussi que les électeurs considèrent plutôt l'effort de destitution démocratique comme une démarche partisane.
Je comprends l'indignation que nous ressentons tous. Mais nous devons mener ce processus d'une manière honorable, qui rassemble notre pays au lieu de le déchirer.
Les discussions ont aussi tourné autour des questions liées aux soins de santé, au contrôle des armes à feu et du récent retrait des forces américaines en provenance de Syrie par le président Trump, une décision qui a suscité la colère du candidat Pete Buttigieg.
Le massacre perpétré en Syrie n'est pas une conséquence de la présence américaine. C'est une conséquence d'un retrait et d'une trahison par ce président des alliés des Américains et des valeurs américaines.
Une colère partagée par le sénateur du Minnesota, Mme Amy Klobuchar.
J'aimerais qu'il parle de la façon dont nous sommes en train d'abandonner les Kurdes pour qu'ils soient massacrés, nos alliés soient massacrés là où la Russie intervient pour les protéger. En quoi cela rend l'Amérique de nouveau puissante? Et j'aimerais entendre de sa part comment le fait de câliner Vladimir Poutine rend l'Amérique encore plus puissante. Cela ne rend pas l'Amérique puissante, la Russie redevient plutôt puissante.
Les démocrates tiendront leur prochain débat présidentiel le 20 novembre en Géorgie.
Au Congo-Brazzaville, polémique des populations pour l'accès aux moustiquaires anti-paludisme. Notre correspondant Arsène Séverin s'est rendu à Kinkala.
À la suite d'un message posté sur les réseaux sociaux, les populations, surtout celles de Brazzaville, sont restées réticentes aux moustiquaires imprégnés d'insecticides. Elles redoutent un empoisonnement en masse qui serait organisé par les autorités. Alors que, sur financement des États-Unis, le gouvernement a obtenu plus de 3 millions de moustiquaires à distribuer gratuitement. L'ambassadeur des États-Unis à Brazzaville, Todd Haskell, a dû se rendre à Kinkala dans le pool pour dissiper la rumeur.
Well, d'abord, c'est une partie important, je crois, de l'engagement des États-Unis dans le pool. C'est important d'utiliser, j'utilise, des autres membres de l'ambassade ici utilisent. C'est notre engagement avec nos partenaires dans le gouvernement d'encourager et de faire la distribution.
Dans le même lancé, le préfet du pool, Georges Kilébé, fait le témoignage de ne dormir que sous ce genre de moustiquaire.
Plusieurs personnes ont tenté de sabrer cette distribution en distillant des nouvelles mensongères. Moi, je peux vous rassurer que moi-même, je dors sous des moustiquaires imprégnés d'insecticides, mais depuis longtemps et je suis encore debout, j'ai 64.
Un message qui a permis à plusieurs familles de prendre les moustiquaires pour se mettre à l'abri du moustique Anopheles, vecteur du paludisme, première cause de mortalité dans le pays. Les habitants de Kinkala s'expriment.
Ce que nous avons retenu, c'est que le palud menace Kinkala. Nous venons souvent ici assister au renouveau avec l'autre, le comité de santé de Kinkala, où le palud menace.
C'est bien de dormir sur les moustiquaires imprégnés pour nous protéger contre les moustiques.
Par ailleurs, un chef de quartier de Kinkala avoue son impuissance à faire respecter l'opération d'assainissement des habitations.
La population de Kinkala, c'est une population semi-rurale. En fait, l'assainissement est bel et bien là chaque mercredi, premier mercredi du mois. Donc, ils ont l'habitude de vaquer à leur occupation, qu'on appelle ça champêtre. C'est des maraîchers, c'est de suite, c'est des malafoutiers. Là, on perd une journée, vraiment, pour eux, c'est embêtant, quoi.
Selon le programme national de lutte contre le paludisme, l'utilisation des moustiquaires réduit les cas des malaria. Docteur Jean Mermoz Yunduka, coordonnateur du programme PALU.
L'opération qu'on avait réalisée en 2011-2012 chez nous, on avait eu l'agréable surprise de constater que nous avons dépassé ce seuil de 20%. On avait réduit l'incidence de 75%.
L'opération de distribution en masse des moustiquaires se poursuit et la dernière remonte à 2011. De retour de Kinkala, Arsène Séverin, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Georges Léonard Sagnot et Saïd Taïeb. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Restez avec nous à l'écoute de VOA Afrique pour un bulletin retraçant donc l'actualité dans le monde avec Henri Francisque. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa.
Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.